1, 2, 3, 4.
Dans cette séquence, nous allons apprendre quelques manipulations simples sur des tableaux d'échange qu'on appelle aussi des matrices d'interaction spatiale. En géographie, l'interaction spatiale peut être définie de manière très large et très riche comme non seulement les échanges entre unités géographiques, mais aussi les transformations qui affectent chacune à cause de ces échanges. On va ici se contenter d'un sens plus restreint de l'interaction spatiale qui concerne simplement les échanges sans les actions et réactions qui se produisent dans les lieux de départ et d'arrivée, dans la mesure où très souvent ces transformations s'effectuent dans des temporalités plus larges que celles des échanges. Nous avons donc des tableaux qui mesurent l'interaction spatiale en ayant, je vous le rappelle, agrégé des déplacements individuels, des appels téléphoniques entre des individus, et ces agrégations s'effectuent à l'intérieur d'entités géographiques qui peuvent être des villes, des régions, des communes, des États, suivant le cas. Donc, ces matrices d'échange, vous le revoyez sur ce tableau, elles ont toutes la même configuration puisque les nombres qui sont à l'intérieur peuvent être additionnés aussi bien en ligne, c'est la somme sur J de tous les FIJ, ou bien peuvent être additionnés en colonnes, c'est la somme sur tous les I des flux FIJ, et on a une case totale qui représente somme des FI, FJ sur l'ensemble du tableau. Donnons-nous un exemple fictif de quelques villes qui diffèrent par leur population représentée par des cercles proportionnels et entre lesquelles ont été énumérés, dénombrés des appels téléphoniques qui donc sont échangés dans une matrice qui est carrée puisque nous avons le même nombre et la même liste de villes en ligne et en colonne, mais cette matrice n'est pas symétrique puisque par exemple le nombre des appels qui vont de A vers B est de 19531, on lit donc la matrice de la ligne vers la colonne, alors que le nombre des appels qui sont allés de B vers A est de 21463. Sur ces matrices, on peut bien entendu effectuer des totaux en ligne qui représentent le total des appels émis à partir d'une ville et en colonne, le total des appels reçus par une ville. Nous avons pour chacune de ces villes une donnée qui est connue et qui est la masse de leur population, c'est-à-dire la quantité des habitants qui sont susceptibles d'émettre des appels. Donc, nous pouvons effectuer sur ce tableau des échanges tout simples qui mesurent la capacité d'émission d'un lieu qu'on va exprimer soit en nombre brut d'appels téléphoniques, soit comme une proportion de ces appels. Par exemple, la ville A émet le tiers des appels, la ville E en émet environ le cinquième, et la ville D est celle qui en émet le moins. On peut symétriquement faire ces mêmes calculs d'addition et de pourcentage en colonne pour mesurer la capacité d'attraction des lieux, qui est plus forte encore pour la ville A, toujours un tiers des appels reçus, et pour la ville E, environ un cinquième, et beaucoup moins pour la ville D. Bien évidemment, ces capacités d'émission et d'absorption dépendent des masses à l'origine ou à destination de chacune des villes. Et un calcul qu'on effectue très naturellement sur tous les tableaux d'échange consiste à calculer un taux d'émission qui rapporte le total en ligne à la masse des lieux. Là, vous voyez que l'ordre des villes change puisque c'est désormais la ville B qui émet proportionnellement à sa population davantage d'appels avec un taux de 204 pour 1000. et c'est la ville D qui émet le moins, avec un taux de 83 pour 1000 habitants. Si l'on avait, à la place de ce tableau fictif, des tableaux d'échanges migratoires, on aurait un taux d'émigration qui apparaîtrait à partir de ce calcul. Si on était dans l'ordre des échanges économiques, on aurait un taux d'exportation. Symétriquement, le calcul en colonne nous indique un taux, une capacité d'absorption de la part de chacune des villes, qui est ici maximale pour la ville E, qui reçoit 184 appels pour 1000 habitants. Et s'il s'agissait d'un tableau d'échange migratoire, eh bien ces mesures nous renseigneraient sur le taux d'immigration dans chacune des villes, ou bien s'il s'agissait d'échanges économiques, sur le taux d'importation reçu par chacune de ces villes ou de ces unités géographiques. D'autres calculs simples peuvent être effectués pour analyser la mesure du trafic total, qui est importante parce que c'est à partir de telles mesures qu'on doit calibrer les infrastructures qui sont susceptibles de supporter les échanges dont il est question. Et donc, faire le total des flux entrants et des flux sortants permet d'avoir une idée de la capacité nécessaire pour ces infrastructures. Ici, elle doit être maximale pour la ville A et minimale pour la ville D. Tout aussi intéressant est de mesurer la différence entre les flux reçus et les flux émis. On appelle cela en général un solde, et vous avez des nombres qui sont soit positifs, qui représentent une capacité d'attraction plus forte que la capacité d'émission. C'est le cas pour les villes A et C, ici, bien que A est un solde nettement plus bénéficiaire que la ville C. En revanche, les villes B et E émettent davantage d'appels qu'elles n'en reçoivent, elles ont des soldes négatifs. On parle également de solde migratoire, si on avait un tableau d'échange de migration ou de migration nette. Et dans le cas d'échanges économiques, on aurait une balance des échanges, balance des paiements, qui qualifierait ce solde. Assez souvent, il est assez décevant de comparer les soldes au volume total des flux échangés. Dans le cas des migrations résidentielles, en général, l'échange de population, ce qui reste en bénéfice ou en déficit aux différentes régions ou aux différentes villes, représente seulement 1 à 2% à peine de tout le volume des personnes qui se sont déplacées. Ici aussi, nous avons un solde qui représente à peine 10% au maximum des échanges téléphoniques qui sont intervenus. Donc, on le voit, on devine, on pressent que les tableaux d'échange sont en quelque sorte encombrés par des nombres importants qui ne reflètent pas nécessairement les actions finales enregistrées dans les unités géographiques. Terminons par un calcul simple qui va nous permettre, à partir des échanges, d'établir un ordre entre les lieux. Nous travaillons sur ces villes et nous identifions vers quelle autre ville elles envoient leur flux le plus important, représenté ici en vert foncé dans le tableau. Par exemple, dans le cas de la ville A, c'est vers la ville E que son flux le plus important est dirigé, 46 000, un peu plus. Dans le cas de la ville C, c'est vers la ville A que ce flux le plus important est enregistré. Deux géographes américains, Nistuen et Dasset, ont mis au point une méthode qui considère que les villes étant classées par ordre d'attractivité, de la plus attractive à la moins attractive, une ville qui envoie son plus grand flux vers une ville plus attractive d'elle, plus attractive qu'elle, est dominée. Et donc, on va ainsi, en traçant des flèches des villes dominées vers les centres d'attraction majeurs, on va établir une hiérarchie des centres. Et nous avons ainsi classé les villes par ordre d'importance du nombre des appels qu'elles reçoivent, A plus importante que E, plus importante que C, et D est la moins attractive de toutes les villes. Et nous avons des flux les plus importants qui vont de A vers E, de B vers C, de C vers A, etc. Et lorsqu'on dessine ces flux principaux envoyés vers une ville de niveau plus élevé, on constate que c'est A, le principal centre attractif de toute cette région. Il reçoit des flux de toutes les autres villes, avec même un relais, un centre relais qui se trouve en C. Cette ville reçoit les flux les plus importants de D et de E, mais à son tour envoie son flux le plus important d'appels vers la ville A. Nous avons donc ici, à partir d'un tableau d'échange, établi une hiérarchie de centralité.